Radio Libertaire 89.4.
La radio de la Fédération anarchiste, la voix sans Dieu ni maître.
Pour nous soutenir financièrement, on a toujours besoin de vous pour continuer d'émettre. Et renouveler le matos, par exemple.
Vous pouvez télécharger un bon de souscription pour soutenir votre radio sur le site de la Fédération anarchiste.
Et qui est bien sûr modulable selon vos moyens.
Ta radio, tu l'aimes ?
Alors tu la soutiens.
C'est une ville que je connais, une chanson que je chantais. Y'a du sang sur le trottoir. C'est sa voix poussière brûlée, c'est ses ongles sur le blindé. Ils l'ont battu à mort, il a froid, il a peur. J'entends battre son cœur. De n'importe quel pays, de n'importe quelle couleur.
Hola babo cañoso, de Navi colonioso.
Avec des mots passés sous le manteau qui brillaient comme des couteaux. Ils jouaient de la dérision comme des armes de précision. Il est sur le ciment, mais ses chansons maudites, on les connaît par cœur. La musique parfois a des accords majeurs. Font rire les enfants, mais pas les dictateurs. De n'importe quel pays, de n'importe quelle couleur. La musique est un cri qui vient de l'intérieur.
Radio Libertaire 89.4, la voix sans Dieu, sans maître et sans publicité, la radio libre de la Fédération anarchiste. Et c'est l'entonnoir, émission critique de la psychiatrie, comme quasiment chaque mercredi de 9h30 à 10h30. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Sylvie. Bonjour Sylvie.
Bonjour Denis et les auditeurs et auditrices.
Et nous allons parler d'un livre. Un livre intitulé « Le pavillon des enfants fous » et dont l'auteur est Valérie Valère. À 13 ans, Valérie Valère a été internée au pavillon des enfants fous d'un grand hôpital parisien À 15 ans, elle écrit le récit de ce séjour. Et c'est un livre qui est paru dans...
Sachant qu'elle est née...
En 82.
Oui, voilà. Ouais. Elle est née en 61... Enfin, celui-là, ça doit être en édition de poche, parce que elle est née en 61, elle est décédée à l'âge de 20 ans, et donc elle a effectivement été enfermée à l'âge de 13 ans, je crois bien, et donc elle a écrit quand il fallait qu'elle sorte, puisqu'elle n'avait pas le droit dans le pavillon des enfants fous d'avoir de quoi écrire, même pas de quoi lire, et même pas, enfin, elle était enfermée dans une chambre avec de la privation sensorielle, quoi, avec oui. absolument rien, pas le droit de parler à quelqu'un, à moins qu'elle accepte de manger, quoi. Oui. Donc elle avait évidemment pas de quoi écrire à ce moment-là, elle l'a écrit après coup. Et alors, ce qui est pas mal, c'est que pour positiver, sur les bouquins en général, on dit c'est l'histoire d'une guérison. Bon, elle est morte, mais bon, en effet, voilà.
Voilà, on va mettre un peu de musique et on revient tout à l'heure avec une annonce aussi. Voilà.
Moi, je.
Quatorzième congrès mondial Intervoice, 26 et 27 octobre 2023, à Paris. Rompre le charme de la réalité consensuelle. Accueillir toutes les expériences humaines. La réalité consensuelle tire son existence d'institutions sociales qui tendent à masquer la réalité. Nous découvrons la réalité quand nous parlons entre nous, en partageant notre histoire, en nous encourageant mutuellement à faire face à notre passé et à explorer et nous réapproprier nos expériences. La réalité consensuelle, c'est un diagnostic psychiatrique. La réalité, c'est l'omniprésence des abus et des traumatismes. La réalité consensuelle est ce qui unit proches et professionnels à faire la sourde oreille aux cris des patients dans les services psychiatriques. La réalité consensuelle soutient le bras et la seringue injectant de force des médicaments dans des fesses récalcitrantes. La réalité est ce à quoi je peux me relier, qui me permet de me relier à l'autre. À quoi nous sert la réalité consensuelle? Si nous n'étions pas élevés dedans, ressentirions-nous le besoin de la recréer? La réalité consensuelle est peut-être rassurante pour la plupart des gens, confirmant en cas de doute qu'on est normal. Mais qu'en est-il alors pour tous les autres? La peur contre la peur. L'un ou l'une doit-il craindre de perdre la tête du fait qu'il ou elle se retrouve confronté à la réalité, tandis que les autres craignent de perdre une réalité consensuelle qui ne serait pas conforme aux faits? L'envoûtement par la réalité consensuelle, c'est s'agripper à quelque chose qui paraît solide parce que tous les autres, enfin pas tous les autres mais la plupart, s'y accrochent aussi. Et c'est reprocher à ceux et celles qui ne s'y agrippent pas de la fragiliser en ne s'y accrochant pas. Mais, et si celles et ceux qui ne s'y accrochent pas ont effectivement fait l'expérience de son intrinsèque et profonde fragilité, de sa nature évasive et vaporeuse, illusoire, Et si celles et ceux qui ne s'y accrochent pas ont effectivement fait l'expérience directe de la dure et froide réalité cachée derrière ? Quelles que soient vos expériences, racontez-nous comment et quand vous avez pu vous libérer de la réalité consensuelle et ce qui s'est passé alors. Parlez-nous de vos découvertes, des leçons apprises et des questions suscitées. Créez des opportunités pour des personnes de se rencontrer autour de la réalité et de faire l'expérience de ce qui se produit alors. Laissez les questionnements surgir et être mis en commun. Les thèmes suggérés incluent, mais ne se limitent pas, à trouver de la réassurance pour dépasser la peur, nous soutenir mutuellement pour regarder au-delà de la violence, nous rencontrer plus en profondeur que nos identités sociales, soulever de multiples voiles de croyances sur les médicaments, imaginer dans sa vie des espaces partagés, éphémères, conflits fertiles. Alors, pour écrire à Rêve France, alors Rêve France, c'est le réseau d'entente de voix France qui organise donc son 14e congrès mondial Intervoice les 26 et 27 octobre à Paris. Et on peut leur écrire à Lille 2023, Lille comme la ville, @rêvefrance.org. Voilà. Alors, on va donc parler aujourd'hui du pavillon des enfants fous de Valérie Valère et je vais commencer par lire un extrait. Alors, je passe l'introduction. Voilà. Mes yeux se sont détournés des vitres teintées, mon dos se redresse légèrement et mes larmes redoublent. Le bruit de la clé qui tourne dans la serrure, la porte jaune qui s'ouvre sur cette silhouette blanche, comme j'aimerais qu'elle ne soit qu'une silhouette, un fantôme qui passe et ne s'arrête pas. Recroquevillé près de l'oreiller, agrippé à la barre du lit, coincé entre la table de nuit de fer peinte en blanc et mon malheur, je l'observe derrière le brouillard de mes larmes, mon regard se fixe sur le plateau qu'elle porte, cet indéniable défi. Énergique, elle le pose sur la table et me regarde en me montrant la chaise, puis m'invite, phrase banale qui ici devient tellement cruelle, lentement, pour reculer la menace, je me lève et traverse le dérisoire mètre de carrelage moucheté qui me sépare de l'autre extrémité de ma prison. Je fais semblant de ne rien voir sur ce plateau, raison ridicule de tous ces murs. Je baisse mes yeux sur mes cuisses maigres et décharnées. En réalité, mon regard a tout remarqué. Les compartiments inégaux, modelés dans la forme, les morceaux de viande noircie, les haricots verts luisants et énormes, la platée de riz, l'œuf dur couvert de ce qu'ils doivent appeler de la mayonnaise, le pain rassis et le dessert écœurant. Elle croit vraiment que je vais manger ça. J'enlève les impuretés amassées sous l'ongle de mon index droit. J'attends, pleurante et butée. Non, ils ne mourront pas. Je veux qu'ils m'oublient, qu'ils me laissent mourir dans ce carcan, qu'ils m'ignorent et ne me torturent plus avec ces plateaux et ces menaces. Je ne demande rien. Elle ne tiendra rien, elle peut parler, essayer n'importe quelle ruse stupide, comme chercher à m'attendrir sur mon terrible sort, prendre tour à tour un air apitoyé, coléreux, indifférent ou dominateur. « Tu n'aimerais pas mieux être chez toi ? Ce serait bien quand même, tu ne crois pas ? Puisque c'est vous qui le dites, pourquoi vous ne m'aidez pas à m'échapper ? Dire qu'il leur faut un diplôme pour poser des questions pareilles. » Je regarde mes jambes en baissant la tête. Elle a rapproché ma chaise afin que mon front soit au-dessus du riz collé qui me donne envie de vomir, et elle a commencé un sermon méchant et stupide à propos du soleil qui brille sur les petites feuilles rousses de l'automne et de ce garçon qui est resté 4 ans dans une chambre en baissant la tête sur les plateaux. « Il fait très beau dehors, tu sais, le soleil est chaud. Moi, je m'en moque du soleil. Elle veut me faire très mal, ce n'est pas la peine. Il n'y a plus que cela en moi. Du mal. » Elle s'est creusé la tête 1 heure pour inventer des histoires. Elle a même essayé de me montrer comment prendre une fourchette et mastiquer, des fois que j'aurais oublié. Qu'est-ce que je fais ? Je la prends, cette fourchette, pour faire semblant de me forcer, pour qu'elle dise que j'ai fait un effort. Non, après, elle voudra que je m'en serve. Elle pourra prendre ma main, s'approcher davantage de moi. Et puis, je veux qu'ils sachent que, de toute façon, ils peuvent faire n'importe quoi, je refuse leur sale plateau. Je n'en veux pas, ni de leur pitié, ni de leur parole. Ils ne m'auront pas. Pourquoi ont-ils le droit de m'enfermer ? Personne ne dit rien, personne ne proteste. Ils s'en moquent, mais bientôt, ce sera peut-être leur tour s'ils pleurent trop souvent, s'ils sont toujours tristes. S'ils n'ont pas assez faim au goût des autres, ces autres qui peuvent vous enfermer et faire de vous ce que bon leur semble.
Oui.
Voilà, donc le ton est donné dès le début du livre.
Et toi, qu'est-ce que tu as... Enfin, t'en as pensé quoi du livre, Denis ? Tu as, ça t'a fait, enfin, ce que moi, je veux dire, je peux parler aussi de,
bah ça,
de ce que ça fait comme ça impression.
Bon, déjà, ça nous plonge dans cet univers glauque de l'hôpital psychiatrique, dans lequel, en suivant son parcours, on partage sa vie de tous les jours, quasiment, avec elle, quoi. Et donc, on a l'impression d'y être. Ça, pour le contexte. En général, j'ai trouvé que c'était très spontané comme écriture. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre
voilà, c'est ce qu'elle fait bien passer, ce qu'elle ressent.
Voilà, elle fait bien passer ce qu'elle ressent, même si elle-même aussi parfois est un peu injuste par rapport à certaines situations.
Par rapport aux autres en particulier. Mais j'ai une amie qui était au pavillon des enfants fous, et parce qu'elle était très gravement anorexique, et qui me disait que de toute façon, c'est pas une démarche qui te fait aller vers d'autres gens. Forcément, qui sont comme toi, tu refuses d'ailleurs l'idée d'être comme eux ou elles, quoi. Et que de toute façon, il y a une chose qui était certaine, c'était que c'est de la torture et qu'elle comprenait pas, comme Valérie Valère comprend pas, pourquoi on la torture de cette manière, quoi, tu vois. En revanche, avec qui on l'accusait d'être injuste, enfin, j'ai lu un livre sur elle qui a été écrit par une certaine Isabelle Claire. Et puis j'ai vu un peu des commentaires, enfin de psy, de journalistes et tout. Et en revanche, ceux qui l'a trouvé injuste, il l'a trouvé injuste en particulier envers les psys, envers l'institution et envers sa famille. Je la trouvais pas injuste
non,
du tout.
Non, moi non plus.
Et par rapport aux diagnostics qui peuvent être faits, j'ai même été voir comment, au jour d'aujourd'hui, sur les sites officiels, tu sais, de la Sécu, enfin tout ce qui peut être un peu officiel, on prétend soigner l'anorexie, qu'il semble qu'on ne soigne pas tellement plus qu'avant, quoi. En tout cas, qu'est-ce qu'ils ont comme idée ? Déjà, ils constatent qu'il y a environ, moins de 10% de suicides, si tu veux, d'anorexiques, et que la plupart surviennent après une hospitalisation, mais ils ne savent vraiment pas pourquoi.
Ah oui.
Ils n'ont vraiment aucune idée de la raison pour laquelle c'est le max de suicides surviennent direct après une hospitalisation. Pourtant, quand tu lis ça, tu te dis qu'il y a vraiment de quoi se flinguer quand même. Je veux dire, c'est épouvantable. Ma copine me disait que tu finis par craquer parce que c'est de la torture, la privation sensorielle. Elle m'avait dit, elle avait appris par la suite qu'on faisait ça aux terroristes pour les briser, ce qui généralement marchait, mais qu'elles étaient des jeunes filles déjà fragiles et qu'on leur faisait, enfin, on les torturait. Donc, je ne sais pas si on peut guérir ça, je ne sais pas s'il faut même essayer, c'est un peu comme tu m'avais dit la question du suicide. Doit-on, quelqu'un qui est très déterminé comme ça, qu'est-ce qu'on peut faire et est-ce qu'on doit essayer quelque chose ? En tout cas, il y a une chose qui est certaine, c'est pour moi, c'est qu'il ne faut pas les torturer par-dessus le marché. Enfin, c'est une torture. C'est comme si on leur disait, je vais t'arracher les ongles un par un jusqu'à temps que tu acceptes de manger, quoi.
Oui, il y a toute une... une grande partie dans ce livre est consacrée à ce chantage permanent, en fait, c'est ce rapport entre les soignants et les soignés, enfin, et elle en l'occurrence, ce rapport malsain, en fait, de chantage permanent, quoi, pour la faire plier, en fait, au départ. Et puis, bon, alors, on s'aperçoit dans la moitié ou les deux tiers du livre que, après avoir supporté une espèce de harcèlement, quelque part, eh bien, elle va commencer à se nourrir pour pouvoir sortir plus rapidement de l'établissement.
Oui, c'est tellement violent, je veux dire, comme traitement entre guillemets, mais je pense qu'on fait plus ça, parce que c'est quand même, je veux dire, c'est quand même assez extrême comme traitement. Je crois que d'ailleurs que la privation sensorielle doit peut-être même être reconnue officiellement comme une forme de torture. C'est vraiment. Et puis, en effet, je sais pas quels étaient le taux de réussite à long terme. Hein. Franchement, tu te dis ok. D'ailleurs, elle le dit dans le livre. Bah évidemment, je vais finir par céder. Mais à long terme, ça marche pas. D'ailleurs, elle a fini par se suicider. Le truc, c'est quelque chose qui n'est pas, sur la durée, l'anorexie très extrême comme ça, j'ai eu l'impression, en tout cas, même pour mon amie, que ça s'est un peu amélioré parce que premièrement, elle a changé de symptômes, mais ensuite, parce qu'elle était plus en contact avec sa famille. Pour la mère Valérie Valère accuse sans cesse sa mère, hein.
Oui.
Mais voilà comment sa mère a réagi quand elle a appris sa mort. En fait, elle est morte, elle se droguait aux médicaments. À un moment donné, elle n'est jamais devenue obèse, hein, évidemment, mais enfin, l'autodestruction passait par d'autres biais aussi, quoi. Elle se droguait vraiment beaucoup aux médicaments, et donc à 20 ans, elle meurt, et donc elle avait une amie, une prof de philo, avec qui elle était assez faillotte, d'ailleurs, elle était du genre à dire, à mépriser les élèves qui chahutaient. Non, mais c'était pas une sainte, hein, non plus. Valérie Valère, faut pas non plus en faire une icône de pureté ou de comme certains le font, quoi, tu vois. Mais enfin, c'était indéniablement une personne et à qui on a, enfin, qui a énormément souffert. Donc, la prof de philo dit à la mère, je me reproche de n'avoir pas su garder le contact avec Valérie à partir du moment où nous avions renoué. Voilà ce que répond la mère, accroche-toi. Il n'y avait rien à faire, répond la mère. Quand quelqu'un est suicidaire, on peut pas le sauver. D'un bout à l'autre, sa vie était un long calvaire. Sa fin ne pouvait être que dramatique. Je suis soulagée.
Ah oui.
Quand même. Et je veux dire, tout du long, elle n'arrête pas d'accuser sa mère. Hein. Dire, elle essaie d'attirer l'attention de sa mère, et sa mère n'a qu'une réaction, c'est se plaindre de sa fille. « Ah, il n'y a pas de chance, etc. Oui. T'as vu les problèmes que j'ai avec toi ?» Enfin bon, à aucun moment, mais aucun. Et honnêtement, je pense que elle avait autant de chance d'arriver à susciter une réaction humaine chez sa mère que si avec l'horloge parlante ou...
Oui.
Je sais pas.
Oui, alors,
c'était vraiment complètement impossible avec quelqu'un qui est mort. Ou... Mm-hmm. Voilà, c'était aussi envisageable que de faire comprendre ce que c'est qu'une couleur à un aveugle de naissance. Donc, je veux dire, c'était pas quelqu'un qui... On a le sentiment de quelqu'un qui est totalement inaccessible, et quand tu vois qu'elle va jusqu'à mourir et qu'elle a toujours pas... Enfin, la prof dit elle a pas eu l'air culpabilisée pour un rond. Enfin, on voit bien, hein, quelqu'un qui a le culot de dire « Je suis soulagée », c'est... Donc voilà. Oui, non, tu voulais dire quelque chose.
Oui, je voulais dire qu'une grande partie des pages de ce livre est consacrée justement à cette relation qu'est avec sa mère, cette relation qu'elle a avec sa mère, et elle en fait un portrait subjectif, mais qui assez assez objectif aussi sans doute quelque part. Et je sais pas, je voulais peut-être lire un passage où l'on voit qu'il y a quelque chose de commun entre ces parents-là, je veux pas parler des parents en général, mais ces parents-là, et l'institution psychiatrique, c'est l'acte d'intrusion. C'est-à-dire que voilà. Alors là, à un moment, elle est, Elle s'ennuie évidemment, puisqu'on s'ennuie dans ce genre d'établissement. Pour occuper mon esprit, j'écrivais au crayon une histoire sur des feuilles blanches, trop fines, l'histoire d'un village. Tous mes personnages représentaient quelqu'un de ce sinistre hôpital, mais je ne pouvais pas m'aventurer car on lisait derrière mon dos pendant que je me lavais. Quelquefois même, je ne retrouvais plus mes feuilles. Les infirmières les avaient remises au docteur. Ils disaient que c'était bien écrit pour une enfant folle, mais la similitude ne leur apparaissait pas tant que je l'avais bien camouflée. Ils relevaient les détails sans importance et inventés. Dans ce village, tout le monde critiquait la sorcière, la seule personne sensée. Elle finissait par les empoisonner tous, c'est clair pourtant. Il y a un bonhomme qui a un gros ventre, n'est-ce pas? Et alors, ils en ont dans tous les villages de campagne, vous n'y êtes jamais allé? Ah oui, les Baléares. Non, à vrai dire, je vous vois plutôt dans un bled paumé de la Sarthe ou de la Normandie. Vous cherchez à prouver que la grosseur des gens me déplaît et que c'est la cause de ma maladie, mais je ne réponds même pas, cela n'en vaut pas la peine. Ah, il y a un garagiste aussi. Qu'est-ce que vous voulez que je réponde? D'ailleurs, il sait bien qu'il perd son temps si peu précieux. Il mange des flocons d'avoine. Il n'a même pas compris que c'est parce que je déteste cela, c'est pour les empoisonner. Et puis, je n'aime pas cette histoire, je n'ai rien pu dire convenablement. Ce n'était pas pour votre sale gueule. Attendez un peu que je sois sorti, vous ne pourrez plus me les voler. Non, mais ma mère le fera à votre place. Elle fouille dans mes affaires. C'est exactement de la même façon qu'elle a découvert les preuves irréfutables des infidélités. Je rangeais ta chambre, j'ai trouvé ce carnet fermé à clé. J'ai dû l'ouvrir parce qu'il y avait une araignée dedans. Mais je te promets que je n'ai rien lu. Ce jour-là aussi, où elle m'a forcé à ouvrir mon coffret à trésor. Nous avons cherché partout ces cartouches. Après tout, elles sont peut-être là. Ouvre, sinon je t'arrache la clé des mains. Tu m'entends? Ouvre. Je la déteste.
Oui.
Donc voilà, il y a vraiment une vie difficile. Une vie.
Oui, et en puis, en effet, ben, peut-être après une pause musicale. Je pourrais parler de comment ils envisagent maintenant officiellement les traitements, s'il y a vraiment des guérisons de l'anorexie, et à quel point c'est également, c'est au moins pas de la torture, mais je pense que c'est juste pisser dans un violon, quoi. C'est n'importe quoi, disons, à mon avis.
Alors on écoute Brigitte Fontaine, C'est normal. Non, c'est pas celui-là. Je me suis trompé.
C'est le 8 du 10.
Oui, c'est bon.
La 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 la. Qu'est-ce qu'il y a?
T'as pas entendu un truc bizarre?
Si?
Qu'est-ce que c'est?
C'est le gaz. C'est le gaz dans l'appartement en dessous. Des fois, il y a des fuites, alors ça s'accumule. Et puis, s'il y a une étincelle, ça explose. C'est normal. Et qui dit explosion, dit détonation. D'où le bruit que t'as entendu tout à l'heure, voilà. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la.
Dis donc.
La 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 quoi? Oh,
tu sens pas le brûlé?
Ah ouais? C'est normal, je t'ai expliqué. Il y a eu une explosion.
Oui.
Et l'agitation moléculaire due à cette explosion.
La quoi?
L'agitation moléculaire.
Ah ouais.
Provoque une élévation thermique, ouais, suffisante pour enflammer les matières environnantes.
Ouais, ouais.
C'est alors ce qu'on appelle la combustion. C'est normal. Tu comprends? La 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 la.
Mais alors...
la 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 la
la la la la
la la la la la
la
la la la la la la la la. Qu'est-ce que tu voulais? La 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 la.
Non, je voulais savoir. Tout l'immeuble, il est en train de brûler, c'est bien ça?
Ben oui, écoute. Les matières qui ont servi à la construction de cet immeuble sont très fragiles, tu comprends?
Oui.
C'est normal parce que de toute façon, il n'y a que des familles d'ouvriers et des étrangers et quelques improductifs.
Ouais.
Alors le feu s'empare très facilement des matières.
Ouais.
Ça se propage. Nous sommes donc en présence d'un incendie.
Ah.
c'est normal.
Ouais.
La 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 la. Qu'est-ce qu'il y a encore?
Tu sens pas comme si on commençait à tomber là un peu?
Essaie de comprendre, c'est très simple.
Oui.
Tu te souviens la combustion?
Ouais.
La destruction de l'immeuble par les flammes?
Oui.
Bon, ça veut dire qu'en dessous, les murs et les étages ont disparu et que nous ne sommes plus soutenus par rien.
Ouais.
Or, une chose qui n'est plus soutenue par rien tombe. C'est ce qu'on appelle la pesanteur, c'est normal. La 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 la. C'est tout à fait normal. C'est l'attraction terrestre. La...
D'accord.
La 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 la
la la la la
la la la la la la la la la la la la la la la la. Quoi? Quoi?
Pardon, mais je pense à un truc. On va pas mourir dans une minute.
Brigitte? Tu es fatigante.
Pardon.
Non, ouais. On est en train de tomber.
Oui.
Or, tout corps tombe à une vitesse définie.
Oui.
Et en arrivant au sol, il subit une décélération violente qui amène la rupture de ses différents composants. Par exemple, les membres se séparent du tronc,
ouais.
Le cerveau jaillit hors de la boîte crânienne, etc.
Ouais.
Dans ces conditions de déconnexion, il est évident que le phénomène de la vie ne peut pas se maintenir, c'est normal. Tu comprends?
Ouais.
Oui, c'est toujours Radio Libertaire 89.4 et c'est toujours l'émission L'Entonnoir, critique de la psychiatrie, avec Sylvie. Et nous parlons du pavillon des enfants fous de Valérie Valère et de ce qui est appelé anorexie, au passage. J'avais l'impression, je relis un extrait, j'avais l'impression de ne jamais avoir autant mangé de ma vie et je croyais bien avoir dépassé les fameux 35 pour le lendemain. Alors 35, c'est les kilos qu'elle a. Je ne me doutais pas encore de ce que l'inconscient est capable de faire. J'étais redescendu à 33,5. Ils me laissèrent des livres et le papier et reprirent mes vêtements et le couloir. Comment pouvait-il faire cela? C'est-à-dire qu'elle avait eu la permission de lire et de pouvoir écrire un peu, mais vu que le poids a baissé, eh bien, on lui réenlève. Pourtant, il savait bien que je n'étais pas responsable. J'avais mangé, et il ne pouvait dire le contraire. Je n'arrêtais pas d'engouffrer leur sale bouffe d'hôpital et tout ce qu'ils proposaient. Il faudra forcer la dose. J'en ai marre, je n'en veux plus, je vais tout laisser tomber, vous m'entendez? Que je me bourre, m'étouffe ou pas, c'est la même chose. Je ne vais pas m'épuiser pour rien. Ils n'ont pas le droit. Ils s'en foutent pas mal de ma santé morale, de la physique aussi d'ailleurs. Ils n'exigent que des kilos, l'écœurement, la merde quoi. Merde, merde, merde. Alors, comme toujours, on m'avait pesé après le déjeuner. Ensuite, la femme de service allait laver par terre et c'était un infirmier noir qui ouvrit la porte sur mes larmes et ma rage. « Bonjour, c'est moi, Tony. C'est toi qui ne manges pas ? Ah, c'est pas bien, ça. Allez, arrête de pleurer. Je n'y peux rien si leur sale balance est truquée. » T'as vraiment mangé ou t'as picoré 3 morceaux de viande et 2 haricots verts? Non, j'ai mangé. Tu n'as qu'à regarder le carnet. J'y manquerai pas. Dis, pourquoi tu manges pas? Ça sert à rien, tu sais. Mais maintenant je mange, ce n'est pas de ma faute si je ne grossis pas. Me fais pas rire. Tu les as vues, celles qui sont dehors, laides, moches, idiotes. La grosse, là, elle lève sa jupe à chaque fois que je passe, ça me dégoûte. Mais toi, pourquoi tu restes là? Hein? Parce que tu ne veux pas manger? Regarde, t'es jolie et tout, tu vas pas rester là-dedans, non? Je vais t'amener des tartines, tu vas les manger, hein, d'accord? Me fais pas enrager, je vais me ramener avec de belles tranches de pain. Une fois que je me serai cassé la tête à les subtiliser à la cuisine, tu n'auras pas le droit de me dire que tu en veux pas. Je reviens dans 2 minutes. Je ne savais plus qu'il y avait des gens capables de plaisanter, que je pouvais sourire, m'amuser de phrases comme les siennes entre le drame et le rire. Mais pourquoi insinuait-il que je ne mangeais pas ? Je finissais presque tout ce qu'elle me donnait. « Voilà des merveilleuses tartines pour mademoiselle. C'est marqué que tu manges sur le carnet, mais il faut tout finir et en redemander. Tu ne grossiras jamais sinon. » Mais j'en ai marre, moi, de ce jeu qui ne s'arrête pas. Je ne suis pas la poubelle, j'en peux plus, j'en peux plus. Donc oui, c'était la méthode récompense-punition, c'était la méthode... Si tu manges pas, on te réenferme. Si tu manges, on va t'accorder quelques petites libertés de pouvoir te promener dans les couloirs, d'aller voir les autres. Et à l'issue, si tu atteins vraiment le nombre de kilos qu'on veut que tu atteignes, eh bien, tu pourras sortir.
Oui, voilà, c'était... Enfin, donc, en effet, ben, cette méthode ne marchait pas, mais je ne vois pas non plus ni quelle méthode peut marcher. Et puis, moi, le sentiment que j'ai eu, je ne sais pas si tu l'as ressenti, mais c'est quelque part, quand tu as un désir d'autodestruction, parce qu'elle ne le cache pas, enfin, le fait qu'elle était, qu'il y a un rapport avec la mort, etc., moi, je me sentais assez démunie, parce que, oui, en effet, même l'idée de tous ces gens qui veulent comprendre pourquoi, etc., qu'il y a un rapport, enfin, quand tu es en contact avec quelqu'un d'aussi toxique, enfin, c'est comme quand tu es en contact permanent avec l'amiante, il y a peut-être des gens qui arrivent à s'en sortir et à pas attraper un cancer malgré tout, mais il n'y a pas besoin d'être sorcier pour se dire qu'il y a quand même, surtout qu'elle le dit elle-même, qu'il peut y avoir quand même un rapport. Or, il n'y a pas de remède à ça, en parlant d'être sans remède. Qu'est-ce que tu veux ? Sa mère est une connasse insupportable, hein, et je vois pas, enfin, mais vraiment insupportable, le mot est même faible. Je trouve même pas de mots pour quelqu'un qui est comme ça, quoi. Et donc tu te dis que ben qu'est-ce qu'elle peut faire ? Même le fait de se couper de son contact, c'est pas suffisant. La méthode Coué marche évidemment pas. Mais donc sur le site de la Sécu, quoi. Donc très très docte, hein, dans le genre très affirmatif. Alors déjà il commence par dire c'est multifactoriel. Bon, une fois que tu as dit ça, tu l'as bien avancé. C'est comme la chanson de tout à l'heure, c'est normal. Une fois que tu as donné une explication, comme ça veut rien dire, c'est multifactoriel. Alors déjà, parmi les facteurs possibles, il voit des facteurs génétiques. Que je sache, on n'a jamais isolé le gène de l'anorexie mentale, donc déjà ça, tu peux te le mettre au cul. Ensuite, mais c'est une façon aussi de ne... Souvent, quand il était question de l'anorexie, en particulier de Valérie Valard, qui est un petit peu l'icône de cette maladie, puisque c'est celle qui... d'être maladie, enfin en tout cas de cette... je trouve pas le mot, mais enfin du fait de se mettre à arrêter de manger jusqu'à se mettre en danger de mort. Enfin, oui. Bon. Eh bien, par exemple, tu avais Françoise Dolto qui était indignée qu'elle dise du mal de sa mère, parce que quand même, c'est elle qui lui a donné la vie et tout. On dit pas du mal de sa mère. Bon, bref. Ouais. Et ça, c'est quand même quelque chose qui était assez récurrent dans ce que j'ai vu comme commentaire, qu'elle exagérait, qu'il aurait fallu lui dire une bonne fois qu'elle faisait chier. Enfin, tu vois, des trucs comme ça, quoi. Et puis, que par ailleurs, donc, comme solution, il y avait aussi des prédispositions de caractère, par exemple quand tu es perfectionniste, capricieuse, perfectionniste, etc., tu vois, quelqu'un qui a une sensibilité exagérée, enfin, tu vois, des choses comme ça. Et puis, donc, comme possibilité de remède, entre guillemets, tu as, par exemple, la thérapie familiale. C'est une vraie rigolade. Enfin, jaune, mais je veux dire, tu as vu comment est sa mère ? Qu'est-ce que t'imagines ? Enfin, je veux dire, je te disais, pourquoi pas aussi une thérapie familiale avec horloge parlante, quoi.
C'est intéressant, d'ailleurs, de comment elle analyse les paroles de sa mère et même celles de son père avec tous ces échappatoires qu'elle comprenne, qu'elle contienne. J'ai pas relevé exactement de passage précis, mais tous les faux-semblants, elle arrive à les détecter tout de suite, quoi.
Oui, c'est vrai, même si je sais pas si c'était... Enfin, quand on dit elle était trop lucide ou quoi.
Ah, moi, je dis...
Est-ce qu'il y a vraiment besoin d'être lucide pour dénoncer la torture et tout, d'une part, et d'autre part...
Je parlais pas de lucidité.
Oui, mais par rapport à ça aussi, quand tu le vis, enfin, moi, je veux dire, je suppose que... Enfin, je suis pas la seule à avoir vécu ce type de rapport. Enfin, c'était pas au point où elle l'a vécu, et j'ai pas eu non plus les symptômes qu'elle a eu, quoi. Mais le côté, t'as affaire à quelqu'un qui est complètement dans le théâtre et dans le faux-semblant tout le temps. Surtout quand tu es enfant, ce qu'elle avait de particulier, c'est qu'elle pouvait bien le décrire, mais tu le ressens. Tu ressens bien que c'est pas que tout ce côté faux, quoi, si tu veux, qu'il peut y avoir dans la manière dont quelqu'un va te dire très théâtralement, mais je t'aime, et tout. Mmh. Et puis, tu vois, bon, bah, je sais pas, moi je faisais des fausses. Enfin, je faisais semblant d'être, par exemple, d'être étendu par terre avec ayant à côté d'une boîte vide de somnifères, étant gamine, quoi, tu vois. Et ma mère, elle arrivait, oh là là, mais qu'est-ce que j'ai fait, oh mon Dieu, pour avoir eu des problèmes pareils avec ma fille, tu sais. C'est un truc, bon, tu te dis oui, bon, tu vois ce que je veux dire,
oui.
Tu dis bon, il n'y a pas moyen, quoi, tu vois, t'as affaire à quelqu'un qui est dans, on voit bien ça, enfin même qu'elle est tout le temps, sa mère, qu'elle est tout le temps dans le faux semblant, c'est quand même assez voyant, je trouve.
Oui, l'auteur, enfin l'auteur là, le protagoniste qui raconte sa propre vie se retrouve du début à la fin de ce livre dans une situation où elle est toujours sur le qui-vive, sur la défensive en permanence, sans jamais se reposer une seule fois, quoi. Une tension permanente.
Ben, dans le livre sur elle, j'ai vu qu'elle avait établi quand même quelques relations, mais pour se sentir en confiance, apparemment il fallait que ce soit quelqu'un qui soit un peu dans le même état qu'elle, un peu à la fois la déprime, l'autodestruction, une certaine méfiance, effectivement, une certaine tendance à la solitude et au retrait, quoi, tu vois. Parce que autrement, en effet, quand t'as eu affaire à quelqu'un qui imite comme ça les sentiments, comment ne pas avoir peur de que, tu vois, que ce soit quelqu'un qui imite ça. Je pense, enfin, le côté chat est chaudé, craint l'eau froide, quoi, tu vois. Je pense qu'il y avait beaucoup ça. Mais donc voilà, ce qu'ils envisagent pour les anorexiques, c'est une thérapie effort. Comme ça doit être multifactoriel, bon, ce qui veut vraiment rien dire du tout. Alors donc il faut faire des thérapies individuelles, essayer de leur redonner le goût de manger en leur donnant des bonnes choses. Parce que bon, c'est vrai que tu te dis, ils présentent en plus de la bouffe dégueulasse, ok, mais la question n'est pas là de toute façon, c'est pas un problème de goût. Si tu veux. Bon, oui. C'est vrai que c'est encore un stade au-dessus. Enfin, je sais pas si t'as déjà eu de la bouffe d'hôpital, mais il y a de quoi devenir anorexique, effectivement, si on ne donne que ça à bouffer. Mais c'est pas le problème du tout, de toute façon. Donc, tu te dis, ils devraient quand même se demander, parce qu'ils disent froidement que statistiquement, le maximum de suicides, c'est quand ils sortent d'hospitalisation. Je sais pas. Il y en a qui se gratteraient la tête en se disant, y aura-t-il un rapport? Enfin, ils savent pas du tout pourquoi. Tu vois.
Oui. Bah, c'est peut-être que si que les hôpitaux psychiatriques sont des endroits, des lieux eux-mêmes pathogènes.
Oui, nous on se dit ça, mais visiblement l'autocritique c'est pas le fort de l'institution psychiatrique. Je pense que je prêche un convaincu.
À genoux, papa, moi aussi.
On passe.
Qu'est-ce que tu penses de la sélection naturelle?
Lâche-moi.
Hein?
Alors, Radio Libertaire, on est toujours à l'entonnoir, émission critique de la psychiatrie.
Oui, dans le livre donc sur Valérie Valère, l'auteur, que je trouve complètement à côté de la plaque, hein, vraiment, c'est pas qu'elle a pas d'empathie ou quoi, mais je trouve que tout le côté qui fait des diagnostics à longueur de temps est déjà pénible. Et elle dit à la fin, voilà, qu'est-ce que j'aurais dit si je l'avais rencontrée pour de vrai? J'aurais dit, allez, la vie est belle, les fleurs, les petits oiseaux, la nourriture c'est bon, et puis tu oublies ta mère, etc. Maintenant t'es adulte, youpla boum, etc. Et donc moi je me demande si je l'avais connue, parce que quand même ça me touche, si tu veux, cette situation, oui. Qu'est-ce que je lui aurais dit? Je lui aurais dit du mal de sa mère. Je pense que c'est ça qui me serait venu à l'esprit. Je sais pas si ça, c'est ça qu'elle aurait attendu, mais il me semble quand même un peu. Et je pense, elle me fait penser, même si elle n'est pas devenue anorexique, mais qu'elle a eu quand même pas mal de problèmes psychologiques, quoi. C'est le Eva Ionesco. Je sais pas si t'as entendu parler d'elle. Tu vois le film My Little Princess qu'elle a fait. Et j'ai lu une interview d'elle où elle explique que donc c'était une petite fille que sa mère, qui avait énormément de talent, mettait en scène même nue, les cuisses écartées, ton petite fille, quoi. Hein. Et même on la voit dans le film, à un moment donné, elle est aux toilettes, la mère ouvre la porte en grand et fait tadam, et elle la photographie en disant oh ça va faire une super photo. La petite la supplie d'arrêter, quoi. Mais c'est ça qui la rend célèbre, la mère. Donc on peut imaginer, elle la colle même à un moment donné directement dans les pattes d'un pédophile. On voit ça dans le film My Little Princess qu'elle a réalisé elle-même une fois adulte, évidemment. Et elle explique dans une interview qu'elle essayait d'alerter autour d'elle, mais était dans un milieu, une espèce de milieu de gauche artistique à une époque où le côté, la pédophilie, etc., était pas du tout dans ces milieux-là, un truc qui était mal. Et elle a dit pas une personne, pas une, ne lui a dit autre chose que tu devrais voir la chance que tu as de que ta mère ait tant de talent, qu'elle te mette en valeur de cette manière. Elle a pas pu trouver un écho pour reconnaître que ce qu'elle vivait était horriblement toxique et que sa mère était quelqu'un d'affreusement toxique et qu'elle avait vraiment pas de bol d'être tombée sur quelqu'un comme ça, quoi. Donc moi le seul truc que j'aurais eu à lui dire, j'ai pas de diagnostic sur le rapport de cause à effet, mais puisque elle-même en parle et puis même l'effet que me fait sa mère, quoi, j'aurais dit t'as vraiment pas de chance. Enfin, mais ta mère est complètement. Mais enfin, je veux dire, je pense pas qu'elle est soignable, quoi. Mais enfin, le problème que t'as, c'est pour moi, c'est d'avoir une mère pareille, quoi. Que elle est immonde, ignoble. Enfin, de dire plein d'insultes sur sa mère. C'est ça qui me serait venu à l'esprit. Je sais pas toi si t'as l'impression que tu aurais pu, si tu l'avais rencontrée, ce que tu lui aurais, si tu lui aurais dit quelque chose, ou si tu serais resté simplement impuissant, ou je sais pas.
Non, je sais pas du tout ce que quelle aurait été mon attitude. Sans doute le fait de s'écouter déjà. Voilà. Mais après.
Oui.
C'est tout, quoi.
Enfin voilà. Donc voilà quoi. Donc elle a écrit d'autres romans, donc hein. Elle a écrit, je crois, 4 romans en tout. Et qui ont tous été, n'est-ce pas, salués pour leur qualité littéraire. Alors, sur le côté, le pur esprit qui refusait les basses contingences des autres et tout, elle est passée apostrophe. Elle a joué dans un film qu'elle a un peu renié. Elle a fait du cirque. Elle faisait du funambulisme, tu vois. Et en effet, c'était bon, quelqu'un qui était indéniablement, elle était très 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 jolie, je trouve. Enfin, je sais pas comment tu la trouves. Donc beaucoup de gens disaient mais pourquoi, alors qu'elle avait tout ce que tout le monde peut souhaiter, talent, beauté, argent, puisque en fait son livre lui a fait gagner beaucoup d'argent, c'était un best-seller. Donc pourquoi objectivement pourquoi est-ce qu'elle voulait mourir malgré tout? Donc voilà, c'est ça qui est un peu aussi dérangeant pour les gens qui voient la réalité objective de ce qui peut, oui, te rendre heureux, quoi. Oui.
Voilà, on laissera la question en suspens, effectivement.
En suspens.
Et une dernière réflexion sur l'institution psychiatrique qui nous est donnée par Olivier Brisson, auteur du livre Pour une psychiatrie indisciplinée à la Fabrique Édition. Nous à l'entonnoir, on pense que on dirait plutôt pour pas de psychiatrie du tout, mais ça c'est alors et un chapitre qui évoque l'asymétrie des rapports eh bien, on le devine, entre soigné et soignant. Quoi qu'on en pense, la psychiatrie est un instrument de pouvoir et du pouvoir. La psychiatrie est le seul domaine médical habilité à prescrire un soin sans consentement. La psychiatrie, dans son rôle de protection et de l'individu atteint de troubles mentaux et de la société dans laquelle il circule en cas de trouble à l'ordre public, fait tout autant partie de l'arsenal disciplinaire que de l'offre de soins. Je fais une parenthèse, je dirais, et quelle offre de soins en définitive ? Je ferme la parenthèse. Elle permet d'isoler un sujet de son environnement si les conditions le nécessitent, sous la contrainte s'il le faut. Ce n'est pas nouveau et elle ne s'en cache pas, c'est son cadre de fonctionnement. Une hospitalisation d'office, par exemple, se fait avec l'autorisation du préfet. Michel Foucault n'a cessé de documenter la place de la psychiatrie au sein des institutions disciplinaires. Rappeler la dimension disciplinaire de la psychiatrie ne revient ni à la critiquer ni à la justifier. L'oublier ou la taire conduirait à des dérives possibles. Il y a d'ailleurs dans l'expression même « psychiatrie humaniste » l'aveu qu'elle ne l'est pas d'emblée. L'asymétrie des rapports entre les professionnels et les usagers ou leurs familles est criante pour quiconque l'observe, sauf que, trop souvent, les premiers font mine de ne pas en être avertis. Les premiers, ce sont les professionnels. L'institution a aujourd'hui un pouvoir réel sur les patients, qu'ils soient hospitalisés, sous contrainte ou en hospitalisation libre, séquentielle et même en ambulatoire, sur l'adulte comme sur l'enfant. Un pouvoir qui va de l'assignation diagnostique à l'autorisation d'aller et venir, de l'organisation du projet de soins au choix du professionnel rencontré. Bien entendu, il y a des commissions d'usagers et des lois qui définissent leurs droits, mais dans la réalité, nous savons que face à l'institution psychiatrique, comme à n'importe quelle autre, toutes les paroles n'ont pas le même poids. Le projet de soins, par exemple, est-il défini avec l'usager et ses proches, ou bien est-il seulement validé in fine par ceux-ci ? Il suffit de voir le saisissement des équipes quand une mère expose ce qu'elle estime devoir être travaillé pour son enfant. Elle ne veut pas nous apprendre notre travail non plus. C'est comme si ce travail consistait à définir pour l'usager l'horizon visé et les moyens de l'atteindre, plutôt qu'à l'accompagner dans l'élaboration de celui-ci. Et il en va de même pour le choix du médecin ou du professionnel. On n'est pas au marché ici, comme s'il relevait d'un caprice et non du fait que, sans confiance ou sans transfert, l'engagement n'est que de surface, dans quelque domaine thérapeutique que ce soit. Voilà, bon, j'arrête ici la lecture de ce passage. Et ainsi se termine l'entonnoir pour cette semaine. Merci Sylvie d'être passée. Mmh. Voilà, ça fait toujours plaisir.
Moi de même. Et le plaisir était pour moi.
Disons à la semaine prochaine.
Aujourd'hui, 1er juillet, la Terre a 3 milliards d'habitants. Personne n'a été capable d'écrire ce simple télégramme « Je t'aime, puis-je venir ?» signé Gaston. Aujourd'hui, les femmes ont rêvé qu'elles faisaient l'amour avec leur père, des bonnes ont quitté les familles bourgeoises l'injure à la bouche, les testicules des hommes ont remonté et ils les ont attachés avec des bouts de laine torsadés. Des petites filles de l'âge de pierre ont chanté dans les trains des mélopées sauvages ignorées de leur mère. La réponse à tous les télégrammes envoyés par les gens a été « Reste où tu es ». Quant à moi, je ne suis pas morte au Soudan. De temps en temps, le téléphone crie et il faut lui donner à boire. La radio, elle, a commencé à diffuser des vieilles rengaines. En Italie, il y a des chemises grises. Ici, on a beaucoup reparlé de la chaude pisse des Algériens. C'est le signe qu'une chose grave va se passer, mais très loin, là, dans la rue, près de cette table, là. Les CRS se massent partout comme des buissons de mûres. 1er juillet, l'essence est au pouvoir. Ça va sauter d'une seconde à l'autre. Les chauffeurs de taxi répandent partout le bruit que la peur n'évite pas le danger. Les roses remettent ça, le foin remet ça, les abeilles remettent ça. Les chats se frottent contre les gens et on ne manque pas de faire observer une fois de plus combien ils sont égoïstes. Les chiens, plus serviles que jamais, sont partout cités en exemple. Voici un dragon pour mettre à votre porte. Voici du sang frais et des chenilles mortes. Voici un cheveu pour le couper en quatre. Et mon triste cœur qui va cesser de battre. Voici un enfant pour mettre dans un coin. Voici une vieille dame pour la jeter au chien. Un rhinocéros, si vous vous ennuyez. Voici un journal pour que vous le froissiez. Voici un regard pour que vous le blessiez. Voici un soleil pour que vous l'oubliez. Voici un fusil pour que vous le portiez.
Thank you. voudrais faire une chanson à succès musical, les disques d'or et les millions, un vrai pantin commercial, et la devise du showbiz.
Vendredi 13 novembre 2015, Bistrot La Belle Équipe, rue de Charonne. 21h, 2 minutes, 10 secondes. C'est fou ce soir comme j'ai l'humeur vagabonde. On s'installe sur la terrasse, on commande des bières, on jacasse. Que de monde sur les trottoirs dans l'étonnante douceur du soir. Vendredi 13 novembre 2015, Bistrot La Belle Équipe, rue de Charonne. 21h15, 24 secondes.